des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
Mario Dumont.
Cube Radio.
Alors, revue des nouvelles du jour. Carl, d'abord, faisons le bilan de la COVID pour cette journée.
Oui, 52 décès qui s'ajoutent au bilan au Québec, Mario, et une augmentation de 135 personnes hospitalisées, ce qui fait qu'au total, là, il y a 2877 personnes qui occupent un lit pour la COVID au Québec.
2877, juste rappeler aux gens que, à la mi-décembre, il n'y a pas si longtemps, là, il y a un mois, mettons, là.
Oui.
Quand on en parlait, on avait, je sais pas, 400 personnes à l'hôpital, quelque chose du genre.
Puis le ministre Dubé
nous expliquait que sa limite, c'était 700, là. Qu'on commençait à être dans le trou. Ouais. Donc, on commençait à avoir des ennuis à 700. Là, on était à 2877. Mais donc, on est peut-être plus de 4 fois ce qui était les lits qu'on avait réservés initialement, les lits COVID. Là, qu'on était capable, à 700, on disait, on était capable de continuer les autres activités du système de santé sans trop de problèmes, là.
Ça donne une idée que c'est pas le temps d'aller se faire traiter pour un ongle incarné, disons, ou des trucs mineurs là. Tu sais, c'est pas le temps de tomber malade non plus, pas de cascade en ski. T'sais.
C'est ça. C'est pas le temps d'être malade, disons là de même.
Non, c'est ça. Et donc, dans les personnes aux soins intensifs, il y en a 263, une augmentation de 8. Ça veut dire que globalement, là, il y a 457 personnes qui sont entrées à l'hôpital, 322 qui en sont sorties. Donc, il y a encore plus de gens qui entrent, qui sortent. La vague n'est pas terminée. La bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles en tout cas, 7000 inscriptions hier sur Clic Santé pour une première dose. Tu le disais tantôt, on est avec lundi et mardi, ça fait 12 000 personnes qui s'inscrivent. Ailleurs dans le monde, la Suisse, le ministre suisse de la Santé évoque le début de la fin. Il dit, ben, le variant Omicron, c'est peut-être une démonstration qu'on tombe dans l'endémicité. Peut-être, on ne le sait pas, évidemment, on est très prudent, mais bon, la Suisse qui évoque la fin de la pandémie, mais on a reconduit jusqu'à la fin mars des mesures de restrictions sanitaires, qui sont à peu près aussi sévères qu'ici, là, mais qui devaient prendre fin à la fin janvier. Alors, on comprend que là, également, la vague n'est pas terminée. Puis, grosso modo, la Suisse, ben, a un bilan de plus de 12 000 morts avec 8,6 millions d'habitants. Donc, des tailles comparables au Québec, là.
Ouais, un bilan semblable.
Ah, ouais. Et autre chose aussi, aujourd'hui, on a devancé la troisième dose pour les personnes qui ont été infectées de la COVID-19, Mario. Donc, dès la fin des symptômes, vous avez plus de symptômes.
Ben, c'est
vous
mon cas, ça, là.
Moi, tu pourrais y aller.
Oui, je sais, mais la directive, initialement, c'était d'attendre plusieurs semaines.
Ben, c'est ça.
C'était ça. À un moment donné, il avait été dit à conférence de presse par Christian Dubé, vous n'aurez pas besoin de la troisième dose. Moi, je m'étais dit, c'est pas besoin, c'est pas tout de suite, là, ça viendra sûrement.
Ben ouais.
Puis après ça, on avait précisé, bon, au moins 8 semaines. Puis là, finalement, il n'y a plus de ça du tout. Ça pourrait être immédiatement.
Ben écoute, pour ajouter à la confusion, puis tu m'excuseras, mais notre collègue Michel Jean d'LCN l'a appris cette directive-là au microbiologiste Carl Weiss en direct à LCN. Puis écoutons la réponse de Carl Weiss sur la pertinence de ça.
Pas vraiment très très utile de faire ce genre de choses-là parce que d'abord, ce qui circule actuellement, c'est Omicron. Si vous venez de faire la COVID, vous avez attrapé Omicron. Donc, vous avez une protection contre ce variant-là qui va rester là dans les prochains mois. Et donc, il n'y a aucune indication d'aller vacciner ces gens-là tout de suite actuellement. Au contraire, je pense que ces gens-là sont protégés pour quelques mois. Et je suis au contraire un de ceux qui ont dit que même si vous avez fait la COVID, il faut avoir votre dose de rappel. Et ces gens-là, oui, ils devraient avoir leur dose de rappel, mais certainement pas, je vous dirais, avant 3 mois.
Bah. Alors, selon lui, il faudrait évidemment donner ces doses-là à des gens là, pour qui ça pourrait être plus utile, mais ça devient difficile de s'y retrouver, disons, Mario.
Ouais, ben c'est ça. On s'adapte, mais les règles changent.
Oh oui.
On a abordé le sujet plutôt avec un expert, mais donc cette influenceuse du vol Sunwing qu'on a vu vapoter à bord, là, qui s'est fait filmer en train de vapoter à bord, et dont on a su après qu'elle voulait travailler dans le domaine de l'aviation. Un jour, elle voulait être pilote. Ouais. Peut-être qu'elle sent que la soupe est chaude, elle s'excuse.
Ouais, Vanessa Sicotte qui a publié une publication éphémère sur Instagram, une story dans laquelle elle dit qu'elle s'excuse et comprend que le fait de voir une fête de la sorte dans un avion en vol alors qu'il y a des mesures de restriction sanitaire qui s'appliquent au Québec, dont un couvre-feu. On comprend que ça a pu choquer des gens, donc on s'excuse de ça. Et évidemment, elle s'excuse auprès des gens de l'aviation parce que ça a sourcillé dans ce secteur-là et aussi des gens avec qui elle étudiait. Elle a donc dit « Mon geste n'a pas apporté une belle image de ce que je veux représenter » et dit qu'elle va assumer les conséquences de Transport Canada. Puis c'est une histoire qui a fait le tour du monde. Des fois, on veut pas être connu tant que ça, tu sais, puis elle pourra pas se promener, disons, discrètement. Et le fondateur de Sunwing, on l'a entendu à plusieurs reprises depuis le début de cette histoire, Colin Hunter, qui a dit, écoutez, il a traité les passagers d'imbéciles carrément dans un texte de notre collègue Sylvain Larocque. Puis simplement, dit, les gens connaissaient là, les restrictions sanitaires, laissez faire l'idée qu'on n'a pas bien indiqué ça aux gens. Puis il disait, posait une question, dans combien d'avions pouvez-vous monter où il est permis de fumer et pas porter votre masque? C'est vrai qu'ils sont rares. Puis autre chose, il dit, écoutez, s'ils n'avaient pas été assez stupides pour mettre ça sur les réseaux sociaux, ils auraient continué leur voyage, ils auraient fait une super belle fête et tout ça serait bien passé.
Mais tout à l'heure, plutôt dans l'émission, je parlais avec le professeur Ebrahimi, qui était quand même assez sévère, même avec Sunwing. Fait que pour lui, le vol pouvait pas continuer comme si de rien n'était, là. Je veux dire, t'avais des gens qui avaient un comportement à bord et ils me nommaient toute une liste d'items où on n'était plus en contrôle de la sécurité à bord, de ce que les gens pouvaient faire. Ils étaient chauds, ils pouvaient faire des conneries. Ben et oui. Lui, il disait, en termes de règles d'aviation, là, c'est appel aux aéroports les plus proches qui sont en dessous de toi, puis tu te poses, là. Et ben, à ce moment-là, mais dans ce cas-là, ce que tu aurais eu à la porte de l'avion, mettons que t'es rendu, t'as un bout de fête, t'es rendu à Philadelphie, tu te poses à l'aéroport là-bas. Là, c'est la police de l'aéroport de Philadelphie qui t'attend en sol américain parce que t'as fait trop de conneries pis t'as forcé un vol. Hein? Non, là, t'as le bon résumé. Dieu. Oh mon Dieu, là, c'est encore. S'ils l'ont pas trouvé drôle, là, pis que ça va leur coûter cher, on s'attend qu'à se faire arrêter par la police américaine parce que t'as forcé un avion à se poser en vitesse. T'es pas dans le bon pays pour rire des autorités, là.
Non, pas vraiment. Puis bon, il y en a 120 là, de ces passagers-là qui auraient réussi à revenir au pays jusqu'à maintenant. Il est à peu près 140, là. Donc, ça progresse tranquillement, mais évidemment, là, le trouble est pas terminé, disons. Puis, en effet, tu veux pas blaguer avec les autorités. Puis, tu sais, soumettre un faux passeport vaccinal au gouvernement fédéral, ben c'est ça. Le contentieux du gouvernement fédéral, il est gros, hein, Mario?
Ouais. Alors, à suivre, mais on comprend qu'on n'a pas fini de connaître les conséquences. Une étude ontarienne qui en fait sourire certains, mais qui établit un lien entre le cannabis et une protection contre la COVID-19.
Évidemment, vous n'allez pas obtenir ça en fumant un gros joint d'une sorte là, québécoise qu'on appelle le Jean-Guy.
Il y en a qui avaient déjà commencé, là.
Il y en a qui ont commencé, mais il y a deux substances dans le cannabis. Le THC, c'est ça qui vous fait avoir, c'est la substance psychotrope. Et le CBD, le cannabidiol, ça, il n'y a pas d'effet psychotrope quand vous prenez ça. Ça va vous aider à vous endormir, par exemple. Ben, il y a une équipe de l'Université de Waterloo qui l'a utilisé. Et en gros, ça permet au corps de mieux réagir face à la COVID-19. Ça le permettrait, tout le moins. Semble que ça semble amorcer la réaction innée du système immunitaire en offrant potentiellement une protection additionnelle contre les agents pathogènes, la COVID-19. Bref, dans les cellules des poumons et du système digestif, c'est comme si ces cellules-là commençaient à réagir et à se protéger avant même que le système immunitaire n'ait détecté une infection. Évidemment, c'est pas un remède miracle, ça remplacera pas la vaccination. La beauté de la chose dans l'étude, c'est que ça dit si vous en avez besoin, le CBD va vous fournir cette petite réponse-là. Puis si vous en avez pas besoin, il y aura pas d'effet secondaire. Vous allez peut-être vous endormir sur le divan en écoutant la télévision, là. Mais bref, on n'en est pas à l'utilisation à longue échelle, mais c'est tout de même une nouvelle particulière. Puis bon, mais qui détend l'atmosphère un peu aussi en cette période difficile.
Et en Suisse, c'est fini les aides financières là, pour les véhicules hybrides rechargeables. Il y a une étude là-bas et c'est pas la première là, qui va dans ce sens-là. Non. J'ai déjà vu la même chose, mais il y a une étude qui dit, sur le plan environnemental, là, ça vaut pas la peine d'être subventionné.
Absolument pas. Puis tu sais, quand on regarde les cotes de Transport Canada sur la consommation des véhicules, souvent, tu sais, pour obtenir à faire du 7 litres au 100 avec une voiture, faut être dans des conditions idéales. Ben là, c'est un peu la même idée. C'est dans le canton suisse de Valais, en fait, on a retiré les subventions pour les véhicules hybrides rechargeables parce qu'on dit que c'est très éloigné des promesses des producteurs et il y a des avantages très légers, sinon aucun, face à une voiture thermique originale, une bonne voiture à essence. C'est une étude de Impact Living et l'ingénieur en énergie Mark Muller a dit, écoutez, c'est une arnaque tant aux normes de CO2 qu'aux objectifs climatiques et aux commerçants. Bon, la Suisse, on le sait, c'est montagneux, ce qui fait que ça émet 4 fois plus d'émissions que ce que les constructeurs disent. Puis même avec quelqu'un qui aurait une borne de recharge à la maison et au travail, on dit qu'on n'est pas prêt d'atteindre ce que les constructeurs nous vendent. Puis ça me fait penser à ma bonne vieille Honda Civic que j'avais il y a 7 ans ou plus. T'sais, ça faisait du 5 litres au 100, on était il y a 10 ans. Ben, on est encore dans ces normes-là aujourd'hui.
Mais je pense que c'était dans un salon de l'auto en Allemagne. J'essaie de me souvenir, ça fait quelques années qu'il y avait eu une espèce de forum, symposium sur cette question-là. Et ce qui en était ressorti, c'était que même certains chercheurs disaient c'est le pire des deux mondes, là.
Oui,
parce que tu as des émissions à cause du carburant, là, du pétrole, là, qui sont un peu inférieures, mais à la marge, pas si inférieures que ça à un autre véhicule. Puis souvent, ça va servir, les hybrides rechargeables vont être des SUV un peu plus gros. Puis que la personne aurait été mieux de s'acheter un véhicule à essence juste un petit peu plus petit.
Et pour aller sur la même consommation.
Ouais, parce que de l'autre côté, c'est que les autos électriques ont aussi des défauts, là, les piles au lithium puis tout ça, puis il y a une pollution qui vient avec ça.
Et dans c'est le lourd
cas,
aussi.
Oui, mais dans le cas des hybrides rechargeables, faut que tu aies cet appareillage-là, faut que tu aies les deux systèmes, là, faut que tu aies le système électrique, puis faut que tu aies le système à essence. Fait que finalement, c'est que tu as tous les déchets des deux, pas tant d'économie de consommation, mais qui disait c'est présenté comme le meilleur des deux mondes. Mais c'est peut-être le pire des deux mondes.
Mais ça permet de faire quelque chose de fascinant pour le consommateur, Mario, se donner bonne conscience.
Là, tu sais que personnellement, je pense que 80% du marché du véhicule électrique, là, c'est de la bonne conscience. J'en connais là, des gens très riches acheteurs de Tesla. Ils s'achètent un véhicule top qualité. Puis une bonne dose de bonne conscience, puis avec ça, tu roules en paix.
Ben c'est ça, c'est pas un miracle la voiture électrique. Il faut pas en acheter une à tous les 2 ans. Si vous en achetez une, vous l'avez pendant 20 ans, là, on parle, là, mais l'idée aussi, c'est de réduire le nombre de voitures. Fait que bref, une voiture, là, peu importe, là, ça implique des émissions ou de la pollution dans sa production. Alors, la marche ou le vélo, si vous pouvez, mais sinon...
Si t'as une vieille Civic, ben t'as garde, t'as roule.
Ouais, ben là, moi, je l'ai vendu depuis un certain temps, mais c'était un véhicule économe. Ma foi, j'étais intarissable à cet effet-là.
Salut.